Français tout à la fin, nous ferons un travail de traduction, mais voilà, ne vous étonnez pas. Je passe donc maintenant la parole à Anne-Marie Rouge. Merci.
Oula, bonjour. Donc, je vais vous parler au nom des bibliothèques de Lyon d'une action que nous avons menée sur les bibliothèques, la médiathèque du Bachu, sur les SDF. Donc, déjà, je présente un peu le contexte général au sein des bibliothèques de Lyon. Il y a une vraie volonté de la part des bibliothèques de Lyon de travailler en direction des publics en difficulté, parce que qui dit crise dit rupture à tous les niveaux, rupture dans la vie de travail, rupture avec l'emploi, donc rupture avec soi-même parfois, rupture avec le logement, rupture dans différents du lien social. Donc, c'est une volonté de travailler déjà dans ce sens. Et pour travailler dans ce sens, souvent les médiathèques de quartier, dont je suis responsable de la médiathèque du Bachu en particulier, les médiathèques de quartier ont la possibilité de travailler avec le pôle mobile ou Bibiobus, qui a pour mission de travailler sur la médiation et aussi de desservir l'ensemble du territoire. Donc, je vous parlais plus particulièrement de la médiathèque du Bachu avant de présenter l'action concrète. La médiathèque du Bachu est au sein d'un très grand arrondissement de Lyon, le 8e arrondissement, et donc qui fait 80 000 habitants et qui a une composition sociologique très, très variée, puisqu'il y a des quartiers dits politiques de la ville, 4, et aussi des quartiers plus aisés, on va dire. Et tous ces publics se rencontrent au sein de la médiathèque et qui est largement fréquentée, abondamment fréquentée. Et donc la cohabitation des publics au sein de la médiathèque est parfois relativement difficile, et nous avons des médiateurs et parfois les responsables de service et les collègues sont amenés à intervenir pour régler les conflits. C'est comme ça qu'on a démarré l'idée de travailler avec les SDF en plus particulièrement, puisqu'il y avait des conflits d'usagers très importants entre les SDF et les autres usagers de la bibliothèque. Et voire même parfois, c'est difficile, les SDF en bibliothèque. Donc pourquoi il y avait des conflits? Parce que finalement, l'usage des bibliothèques que font les SDF est sensiblement différent de l'usage que font l'usage traditionnel, c'est-à-dire que c'est un public séjourneur qui parfois dort, qui parfois ronfle et d'autres choses, et qui est parfois alcoolisé. Donc il a fallu faire on s'est posé la question de faire un travail pour reconnecter un petit peu ce public, ces publics ensemble, changer les regards, et c'est pour ça qu'on a démarré ce projet qu'on a appelé Compte de SDF, puisque c'est les SDF eux-mêmes qui ont trouvé ce titre. Donc je l'ai repris pour aujourd'hui. Alors l'objectif de ce projet dont je vais vous parler, c'était un objectif de reconnexion un petit peu des SDF face aux ruptures qu'ils ont eues dans leur vie, intégration sociale et culturelle, reconnexion avec leur propre histoire, reconnexion avec les apprentissages et reconnexion avec le lien social en général. Et enfin, on a souhaité faire à la fin, modifier aussi le regard qui pouvait être porté tant par les usagers de la médiathèque que par les SDF sur la médiathèque, et aussi le regard des bibliothécaires sur modifier le regard respectif des uns sur les autres. Et tout ça dans un respect des différences. Donc pour monter ce projet Compte de SDF, on a été interpellé à l'origine par une structure d'accueil qui s'appelle Relais SOS, qui est un foyer Notre-Dame des Sans-Abris, et qui s'occupe donc de réinsertion et qui est tout proche de la médiathèque, ce qui explique aussi l'importante fréquentation des SDF à la médiathèque. Donc il y a eu le Bibiobus qui a commencé un premier partenariat, qui nous a ensuite convié, la médiathèque du Bachu, et enfin l'atelier Relure de la médiathèque, de la bibliothèque en général. Pourquoi vous allez vous comprendre tout de suite. Alors, ça a commencé, donc, le projet, par des ateliers d'écriture qui ont été menés au sein de la structure Relais SOS par une animatrice. Donc, l'objectif général, donc, quand ces SDF qui sont si loin de leur propre vie, ils ne se reconnaissent plus eux-mêmes, donc, c'était de se réapproprier, de se reconnecter par l'écriture à leur propre vie. Donc, ça, c'est l'objectif des ateliers d'écriture. Notre collègue du Bibliobus a participé à ça. Et finalement, ils ont eu ce retour vers l'écrit, vers le dessin, vous le verrez tout à l'heure. Ils se sont dit qu'on pourrait peut-être finalement les regrouper dans un petit recueil, ce qui a été fait après, justement, par l'atelier Relure. Donc là, je vous ai mis une illustration d'un récit d'un monsieur pour illustrer les ruptures de vie. C'est un monsieur qui est assez âgé et qui disait l'Espagne, qui est immigré espagnol, l'Espagne a fait de moi un professeur de sciences, la France a fait de moi un manœuvre en bâtiment. Donc ceci, c'était pour illustrer un petit peu les ruptures de vie que subissent les personnes qu'ont connu les personnes SDF. Donc une fois leurs récits, leurs ateliers d'écriture mis écrits sur papier, on s'est dit qu'on pouvait les reconnecter aux apprentissages. Et donc, ils sont venus, ils ont été accueillis en petits groupes d'une petite dizaine de personnes, dans les ateliers numériques à la médiathèque du Bachu. Donc, on a mis en place, l'animatrice numérique, les médiateurs de la bibliothèque, ont mis en place des ateliers de formation au numérique, c'est-à-dire savoir utiliser un ordinateur correctement, les fonctions de base, créer une adresse mail, et aussi utiliser un traitement de texte. Et pour donner de la motivation à cet apprentissage, on s'est appuyé sur leur récit de vie qu'ils venaient de faire au sein des ateliers d'écriture. Donc chaque participant a ensuite retrouvé des apprentissages en saisissant son propre récit de vie. Donc on a fait, et voilà, donc c'est là qu'intervient l'atelier Relure de la bibliothèque, et on a réuni ces témoignages dans un petit recueil qui leur a été ensuite distribué, qui s'appelle « Contes de SDF ». Voilà la page de titre, « Contes de SDF, témoignages recueillis au Relais SOS, un accueil de jour du foyer Notre-Dame des Sans-Abris, illustré par Eugène Badgam, c'est un des SDF qui se donnait ce surnom-là. Et ensuite, voilà une petite introduction. Il était une fois un accueil de jour dans le 8e arrondissement de Lyon. Une animatrice y réunissait des hommes et des femmes autour d'une table pour débattre des choses qui forgeaient leur vie. Je ne vais pas tout vous lire. Travail, chômage, métier, errance, vacances, patron, labeur, retraite. Voilà, drôle d'idée. Ensemble, ils eurent une envie de garder une trace de tous ces récits, d'en faire un livre pour que d'autres puissent savoir. Ce livre, vous le tenez entre vos mains. Voilà pour le. Voilà. Donc ensuite, on s'est dit que c'était vu qu'au sein de la médiathèque, on avait des problèmes de lien social et de relations entre les usagers, on s'est dit qu'on pouvait éventuellement ces travaux les exposer et faire une soirée de présentation et de lecture, puisqu'un de mes collègues avait également accompagné les SDF dans des ateliers de lecture à voix haute. Donc, on a mis sous vitrine les originaux, les écrits originaux des différentes personnes, ainsi que les dessins. Et voilà, donc on a ensuite, je vous ai mis une photo présentant l'exposition, le hall de la médiathèque, et on a fait une petite inauguration de cette exposition. Il y avait en particulier les gens de Relais SOS, il y avait l'adjointe à la culture du 8e, il y avait mes collègues qui lisaient. Voilà, et les SDF eux-mêmes ont lu leur propre récit. Donc voilà ce que je disais, donc la lecture à voix haute par les auteurs accompagnée d'un bibliothécaire. Ça a été intéressant aussi de se réapproprier la lecture à voix haute, d'être capable de se reconnecter aux autres en acceptant sa propre histoire et comme source de lien et comme modification du regard qu'on peut porter les uns sur les autres. Voilà, j'ai pas flouté. Hein, Donc, ce partage des témoignages avec les usagers de la médiathèque a été très important, puisque Ça a permis quand même au lien social à l'intérieur de la médiathèque d'évoluer fortement et aussi au SDF de se sentir plus accepté. Mais aussi, ça a permis aux bibliothécaires de mieux comprendre et de mieux accepter ces publics séjourneurs qui sont pas si faciles que ça à comprendre. Donc l'objectif général de tout ce travail, bien sûr, c'était de travailler sur les ruptures de vie, de pouvoir les dépasser par une mise en, par une expression culturelle autour de ces ruptures, mais aussi de faire vivre la médiathèque comme un espace de lien social et de citoyenneté par la reconnaissance des différents parcours, la reconnaissance des différents types d'usages et la reconnaissance de chacun au sein de la médiathèque. Donc en fait, ce travail, on le continue, ce type de travail, cette forme de travail, on la continue avec des publics qui sont souvent aussi en difficulté, comme on a des adolescents qui sont un peu en déshérence. On fait des ateliers autour de la musique, on fait aussi beaucoup de travail avec les demandeurs d'emploi. On a un fort partenariat avec Pôle emploi et Maison de l'emploi pour... parce qu'en fait, les demandeurs d'emploi qui viennent chez nous, ce sont des demandeurs d'emploi qui cumulent un peu toutes les difficultés, qui sont très, très éloignés de l'emploi. Et donc, on reconstruit tout un travail, tout un rapport à l'apprentissage pour qu'ils puissent retrouver une... voilà. Donc, disons que notre action globalement sur les SDF a été un peu emblématique du travail qu'on mène auprès des publics en difficulté. Voilà, je vous remercie.
Merci Anne-Marie. Je vais passer la parole maintenant à Despina Mellou, qui est à ma gauche.
Bonjour. Alors, je commence. Il ne fait aucun doute que le phénomène de la crise économique en Europe a une influence sur tous les secteurs de notre vie quotidienne. Bien que l'économie grecque ait été située en 2008 à la 25e place des économies les plus prospères du monde, selon les statistiques de l'Eurostat, la population grecque a dû faire face en 2010 à une véritable tempête économique et sociale. Cette dégradation a eu des conséquences négatives sur les domaines de la santé, des rapports familiaux et de la qualité de vie, tant au niveau des individus que celui des communautés locales. Un tourbillon qui souhaiterait tout engloutir. Les bibliothèques publiques, comme c'était inévitable dans toute l'Europe, ont subi aussi les conséquences de la crise économique actuelle. Cette situation inimaginable que nous vivons a un impact sur un des symboles de notre culture, les bibliothèques. C'est une crise totale qui s'attaque à la civilisation elle-même. Les bibliothécaires dans toute l'Europe sont dans la rue demandant ce qui est logique. Le bon fonctionnement des bibliothèques publiques ainsi que la garantie des emplois pour le personnel spécialisé et pour les bibliothécaires. Chaque jour, dans ce climat d'incertitude, mes collègues se battent avec des moyens dérisoires pour que les bibliothèques restent ouvertes. Ils essayent d'éviter la disparition des bibliothèques. Par conséquent, on constate une transformation qui touche la nature de la bibliothèque. Le président de BLIDA, M. Gérard Leiner, a souligné cette transformation en août de 2012 au Congrès international de l'IFLA Helsinki en disant que, dans la plupart des pays de l'Union européenne, du fait de la crise économique, les bibliothèques se trouvent confrontées à de profonds changements en ce qui concerne les services qu'elles offrent. La réalité est que les bibliothèques publiques en Europe continuent à offrir des services de qualité à leur public, mais pendant cette crise économique, malgré les moyens limités. Le bénéfice social, culturel et éducatif que les bibliothèques apportent à la société est indéniable. Il est cependant nécessaire de découvrir un nouveau modèle qui puisse les rendre plus fonctionnels et qui peut-être exigera un repositionnement global du public. Aujourd'hui, plus que jamais, les bibliothèques doivent se tourner vers l'innovation et faire preuve d'imagination afin de trouver des solutions économiques pour de nouveaux programmes et de nouveaux services. C'est en fait ceux qui travaillent seront d'accord avec moi que les bibliothèques peuvent faire partie de la solution à la conjoncture présente. Il faut que nous exploitions les occasions qui nous présentent avec la crise. Il est temps de stimuler notre imagination. Les services que les bibliothèques publiques offrent en cette période sont multiples et complexes en relation avec les besoins des personnes. Les bibliothèques sont alors appelées à connaître un changement fondamental de leur mode de fonctionnement. Il faut trouver de nouvelles approches, il faut combiner les politiques traditionnelles avec les possibilités actuelles, lesquelles leur permettront d'adopter de nouvelles méthodes et montrer la plus grande extraversion pour pouvoir continuer. Pendant cette période de crise économique, il est important de parler de planification correcte, de coopération au niveau local et international. Et ici, je voulais souligner une extraordinaire coopération et collaboration que nous avons avec l'organisation de Future Library et avec le programme de Window of Shanghai de la Bibliothèque publique de Shanghai. Collaboration avec des organisations et des associations, recherche de donateurs, des actions innovatrices, des idées innovantes et surtout des projets. Tout ça, ce sont des actions économiques pour revitaliser l'espace des bibliothèques, c'est-à-dire des moyens de survie. Il me paraît obligatoire de rechercher des sponsors parmi les hommes politiques, les collectivités locales et les entrepreneurs de la communauté locale. Travailler de façon coopérative et collaborative, pas seulement au sein des bibliothèques elles-mêmes, mais aussi avec d'autres associations au niveau local ou international. Dans la bibliothèque de Haïdari, où je travaille depuis 30 ans, par exemple, une salle est mise à disposition par la représentation de travaux artistiques variés, créations locales ou d'autres régions, c'est-à-dire des représentations théâtrales ou musicales. La bibliothèque et les artistes bénéficient des revenus générés par les ventes. Une autre action aussi pour revitaliser la bibliothèque, c'est l'organisation des bazars pour les exemplaires en double des livres de la bibliothèque. On a aussi donné la possibilité aux citoyens d'offrir à leur tour tout ce qu'ils désiraient, des livres, des jeux de société, de la papeterie, des CD. Une proposition serait la donation des livres par les librairies ou les centres commerciaux. En retour, la bibliothèque est tenue de maintenir des billets de fonds par les billets des réseaux sociaux, médias sociaux, Facebook, sites, blogs, YouTube, etc. Il est important de mettre en avant que les bénévoles soutiennent l'œuvre importante de la bibliothèque. À la bibliothèque municipale de Haïdari, située entre 5 hôpitaux publics, un groupe de bénévoles distribue des livres de la bibliothèque aux patients et à leurs proches, conformément à la sélection qu'ils ont faite eux-mêmes. Des bénévoles, son emploi maintient la bibliothèque propre. Des bénévoles aident à organiser et à mettre en œuvre des événements et des actions. À la fin de l'après-midi, des acteurs au chômage offrent bénévolement leurs services en lisant des contes de feu aux enfants d'âge préscolaire. Depuis quelques années, l'Association des Amis de la Bibliothèque, récemment créée, apporte un soutien significatif au fonctionnement de la bibliothèque, de recherche des sponsors, achat des livres, des papeteries, des revues, des CD, des DVD, gestion financière, des donations des utilisateurs et des agents, afin que la bibliothèque continue à offrir ses services. On partage des espaces, des ressources, des services et l'organisation des activités en commun. La réponse immédiate des citoyens envers les problèmes des bibliothèques est encourageante si on prend en considération la crise économique. Il est vrai qu'une relation féconde et mutuelle se développe entre les citoyens et la bibliothèque d'une communauté ou d'une municipalité. Il est évident que la survie de leur bibliothèque les préoccupe. La bibliothèque a changé. Les bibliothécaires sont sortis de leur bureau. Ils sont plus proches du public. Ainsi, le changement de leur statut a aussi provoqué un changement relationnel. Vous n'avez plus entendre ce dialogue dans les couloirs des bibliothèques publiques. Écoutez, messieurs, si vous cherchez des bibliothèques avant-garde, offrant du café et ayant des sofas, allez plutôt dans une librairie. Nos bibliothèques se sont transformées avant-garde. L'activité traditionnelle des bibliothèques publiques, c'est-à-dire l'emprunt des objets, tend à diminuer. Les utilisateurs osent faire usage de l'espace naturel de la bibliothèque sans emprunter des livres. Ils restent plus longtemps dans ce lieu et en profitent de leur temps de façon intellectuelle. Dans une enquête qualitative, on a été réalisé récemment afin d'étudier l'interaction d'utilisateurs qui se produisent dans la bibliothèque. Chacun trouve sa place dans la bibliothèque. Personnes âgées, jeunes, en famille ou seules, handicapées, immigrées ou au chômage. On est passé du silence à la vie. La bibliothèque est un lieu de rencontre pour tous. C'est le bruit, c'est la vie, c'est un lieu changé. La bibliothèque, c'est un lieu où toute la communauté se réunit et en particulier les groupes les moins favorisés. Les nouvelles fonctions de la bibliothèque n'offrent pas seulement la presse locale, les cités, les réseaux sociaux gratuitement pour tous. Elles aident les citoyens de tous les pays à apprendre les nouvelles technologies qui accueillent dans un esprit d'égalité les immigrés et les aident à s'intégrer dans leur nouvelle patrie. Elles participent à l'apprentissage et à l'éducation à travers un processus ludique et dans un espace calme et convivial. Mais le plus important, c'est qu'elles valorisent l'intellect de chacun de nous ayant des ressources financières restreintes. Le bibliothécaire aide le citoyen dans sa recherche d'un emploi à la rédaction de son curriculum vitae. Je voudrais me référer à l'exemple d'un agriculteur au chômage habitant dans un village de montagne à Konica qui, avec l'aide d'un bibliothécaire, est parvenu à créer une société d'apiculture rentable. La bibliothèque constitue un foyer pour les citoyens qui l'utilisent et la défendent. La bibliothèque est ainsi un centre polyvalent pour le développement des activités culturelles, la création littéraire et aussi les loisirs. La bibliothèque offre la possibilité aux jeunes, aux futurs entrepreneurs ou entreprises locales de se développer grâce à des informations précieuses du bibliothécaire. Ainsi, notre rôle est dynamique et la bibliothèque crée une identité sociale dans la communauté. En dehors du changement de la bibliothèque, un nouveau type de citoyen est. C'est un citoyen qui a besoin de nos services plus que jamais. Une relation de citoyen-utilisateur qui conduit à repenser le lien qui existe entre les bibliothèques et les communautés. C'est un fait que la bibliothèque démontre qu'elle pourrait constituer une force motrice pour le développement d'une conscience sociopolitique achevée. La situation économique a eu comme effet résultat une augmentation rapide du nombre de lecteurs inscrits aux bibliothèques. Dans la bibliothèque municipale de Haïdari, le nombre des inscrits a augmenté de 90%. Avant le début de la crise économique, la bibliothèque comptait seulement 12 000 inscrits actifs. La bibliothèque est un lieu de rencontre pour tous. Réellement public est un centre informatique. Est un lieu agréable, différent de celui du bureau ou du foyer, où les membres peuvent passer de bons moments ensemble ou bien se réunir et faire la connaissance des personnes diverses. Et tout cela grâce à un lieu neutre où personne ne demande rien, un lieu où on était tout simplement, pas besoin d'acheter ni de consommer, pas besoin non plus de dépenser même un euro pour se réjouir de la quiétude ou de la compagnie d'un livre dans une atmosphère chaleureuse et accueillante. Les prestations de ces services sont tout à fait gratuites. J'ai essayé de vous présenter avec clarté et précision les différentes actions et activités des bibliothèques pendant cette crise économique. Je vous suis voulu transmettre le changement d'atmosphère de ce lieu aussi, mettre l'accent sur le changement de nos fonctions. La connaissance et l'information ont changé le monde. L'histoire le confirme, la quotidienneté le recherche, l'économie de la connaissance l'impose. Le livre, en tant que moyen de diffusion de la connaissance et de l'information, a toujours agi en tant que levier du changement, tandis que la bibliothèque donne du prestige aux citoyens et aux sociétés. Les papyrus et les parchemins, la concurrence entre Alexandrie et Pergame pour l'acquisition des manuscrits montre l'importance de la connaissance, une priorité pour le pouvoir et le progrès. Réalité qui aujourd'hui, au sein de la société de l'information et de la connaissance, mais aussi au cœur de la crise économique, s'impose de manière plus impérative. D'où l'importance de ce congrès, tout à fait heureux, pas seulement de participer, mais aussi pour vous entendre, je ressens ce changement européen des bibliothèques ici dans cette magnifique salle. J'espère que notre discussion renforcera cette dynamique et incitera les États à se pencher sur nous pour la stabiliser. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Bruno Duarte-Heras.
Bonjour à tous. Je me remercie à l'ABF et à l'organisation de ce congrès pour l'invitation qu'ils ont faite à l'Association portugaise des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Et au nom personnel et au nom de l'association, c'est un grand plaisir et un grand honneur d'être ici à ce congrès à Lyon. Malheureusement, je ne parle français très bien, donc je vais faire mon présentation en anglais. Désolé. To talk about Portuguese public libraries at a time of crisis is a little bit redundant, because in Portugal we are so used to run our libraries with small budgets that this nowadays situation is almost a common time. In any case, on these last 2 or 3 years, the situation has been very worst for the public libraries, and we are on a difficult situation, so I don't bring you very good news, but at the end, like always, is still hope. I start with a quote from a book of a Spanish writer that I like very much, and that says that the crises that come up nowadays are created and invented by politicians. And the only reason for that is for them to remind us that we don't have the right to be happy and that we don't have to have the right to expect too much from life. So, because I don't like with this, I don't agree with this, and I know you agree with me, and because public libraries can make a difference, let's see how. To better understand the Portuguese public libraries, we have to go back to 1987, when all have started. At the beginning and until 3 or 5 or 4 years ago, the public libraries began with a contract that was signed between the Ministry of Culture and the municipalities, and that contract established two major parts. One of them was the conditions on the agreement, and like you see, defined some things like dimensions and characteristics of the spaces and the buildings, and also the collections, and have recommendations about the personnel and their qualifications. So, for the last 25 years, Portugal has been pleased to have 194 public libraries. These public libraries have been supported by the central state on the amount of maximum of 50% that will arrange the construction of the building, the furniture, the equipment, the hardware and the software, and also the collections. This is Portugal with all the 308 municipalities that have, not all the municipalities, unfortunately, that have 194 central public libraries that run 168 branches and that have 50 mobile libraries. What is the problem? The problem is that after the opening of the library, the municipality have the full command on management of the public library. They can do whatever they want with the building, with the collection, with the staff. And unfortunately, no municipality can be punished for a bad management of the cultural equipment that is the library. So, on the last years, we have been seeing that municipalities have been reducing costs and have small and small budgets for public libraries. What we have been seeing is that collections are not being renewed, there are no acquisition for books or other documents, and the personnel that is getting retired has not been replaced. The problem is that we don't have any support from the central government. There is no legislation on any kind of official documents that can prevent this, and our National Authority for Public Libraries don't have the mission to inspect and to supervise the Portuguese Public Library network. At the end, the major concern is that public libraries are no longer on political agenda in Portugal. About the Portuguese Public Library network, there is no network. It isn't functional, and there isn't truly, really a network. We don't have a net on work on. We have major differences between public libraries that are on the countryside, on the interior of the country, and on the coast side by the sea. We have major differences between libraries that are run by big municipalities and that ones that are run by smaller ones. At the end, we see that the most part of municipalities don't have the ability and the capacity to run a public library service. If you see the numbers, well, what can I say? It's going down and down and down, at least since 2009. Acquisitions are going down with books, CDs, DVDs, every kind of document. If you look at the collections and with a scale of 1,000 inhabitants, we see that the numbers are going down. The only exception is about books, and it's easily explained. Because libraries don't have any money to buy books, they are gathering all kinds of documents that can get from offers of donations, and they are getting there in the collection. So in the future, for those who are working on collection development management, it will be a huge problem. About the acquisitions, the same, the numbers and the costs that are invested in collection acquisitions are going down, and all the same with the personnel. If we see a map of the of some European countries, we see that Portugal are the country of the Central and Western Europe that invests the less on public libraries. If we compare the opinion of the Portuguese users about their public libraries, that are the red lines, we are below the European average. So, the part of the hope. I have collected some examples of what public libraries and public librarians are doing in Portugal, and I arranged them in five categories. The first one, the partnerships, and I start with a very good French example. The Welsh Public Library started in 2011 a partnership with the Association du Festival du Premier Roman de Chambéry. With our participation in this festival, we had created new reading clubs and have created new dynamics on the one that already exists. Because of our participation on this festival, booksellers and editors are interested on sending us books so we can select the authors and the titles to the festival. So it's a good way to get books free of charge. Another example, and with the financial crisis that have been striking Portugal and Portuguese families, we have the offer of school books to families. A Portuguese bank called BPI has established some partnership with public libraries, and the staff of the bank send the books that they have from their children to some public libraries, and in return, the public libraries make available the books that they are collecting on the local community. This bank have agencies in all of the country, and they assure the circulation of the documents. And with this partnership, we can get more titles and more copies of each title. Another interesting partnership is that one that we can make with universities and research centers. Some universities, in exchange for our numbers, our activities, our public, that we get along very, very good with them. In exchange, they make available for their teachers or their researchers to go to the libraries to make small courses or small lectures about literature, history, arts, astronomy, whatever we can. Another one with local cultural associations. Some of them don't have an headquarters, and they need a space to rehearse or to perform. The library opened their doors to them, and free of charge, of course. And later, in a special time of the year, like Christmas or holidays, they can do a performance on the local library, also free of charges for the users. Another one from the Biblioteca Municipal de Sines, a public library in the south part of Portugal. This library have a very good staff about with the storyteller staff, but they don't have any money to buy books. So with contacting other public libraries, they exchange. Her storytellers are going to the other libraries to make sessions to children or to school groups, and in return, some libraries exchange with them reading club kits or small exhibitions that can trade with each other. Also, the Portuguese Portuguese Association of Librarians is giving his work with the public libraries section, and during this month it's going to launch online a database when all the libraries can register the books that they don't need, the one that came from offer of donations, and with a national impact, they can share these books and they can divide all these extra books that they don't want. We expect it until the end of the month we can get it online. This is my favorite, at the Biblioteca Municipal da Zambuja, a public library nearby Lisbon. This library has a very good buildings and very good installations. They have an auditorium, they have a garden that they rent for parties, and since 2011 they stopped charging money and start charging books. They have a list of books that they need, and when a company or some user want to rent the space, they don't charge us euros, they charge us books that they need. I really like this one. Another example from Portugal, and a new usage, a new function for the public library. Maybe in Portugal, in other countries, we are used to see that. This public library, Biblioteca Municipal de Alfândega da Fé, on the north of Portugal, on a rural side of the country, has opened their doors during night and weekend. So local business and enterprises can run their meetings there. If someone wants to start a business, they can go to the library at night during weekends, and it's a good place when you can get together with the community and despite the normal timetables of the library. So, like I said, I don't brought you any good scenario of the Portuguese public libraries, but there is still hope. And Portuguese public libraries continue to try to do their best to run the public libraries. Like T.S. Eliot says, and I, with this agreement, I hope, says also, if there is a future for men, there is also a future for Portuguese public libraries. Thank you.
Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à Paolo Messina. On va faire un cours en anglais, un cours en français, un cours en anglais.
Chers collègues, bonjour. Pendant les dernières années, les dépenses publiques pour les bibliothèques sont diminuées de plus en plus en Italie, avec une progression géométrique. Découpage de 50% pour l'achat de livres sont à l'ordre du jour. Déjà en avant, l'État et les communes italiennes ont investi en culture beaucoup moins de la moyenne des autres pays européens. Avec la crise économique, il faut épargner surtout. Et alors, dans la loi des rationalisations administratives de 2012, on est revenu à la distinction de loi entre dépenses essentielles et dépenses non essentielles. Les bibliothèques et plus en général les services culturels ne rentrent donc pas dans les dépenses publiques essentielles. Mais c'est aussi un problème culturel, avec le risque de ne pas reconnaître la valeur économique de la culture en tant que volant pour le développement économique aussi. Même s'il y a des hommes politiques qui reconnaissent publiquement qu'une société, ils disent, cultivée, gaspille moins, se dispute moins, tombe moins malade, consomme moins, et augmente aussi la production. En général, il y a des difficultés à assurer l'équilibre correct entre la culture du spectacle et la culture institutionnelle. Je vous parle en général de l'accueil touristique, versus qualité de vie des résidents, tourisme culturel versus patrimoine, événements versus services pour les agents de nos municipalités. En outre, à la manque de ressources financières, surtout pour les bibliothèques publiques d'État, il y a un problème de réorganisation de services. En Italie, nous avons 46 bibliothèques publiques d'État, qui sont en général bibliothèques de conservation ou à vocation universitaire. En plus, on a deux bibliothèques nationales centrales, celle de Florence et celle de Rome, qui jouent ensemble le rôle de bibliothèque nationale. On dit qu'on devrait les réorganiser et que seule la bibliothèque de Florence devrait avoir le statut de bibliothèque nationale. Mais il faut dire aussi que la somme de budget de deux bibliothèques est bien loin, au moins, du budget de la BNF ici en France. On doit réorganiser, mais surtout refinancer. De l'autre côté, on n'a pas une loi cadre sur les autres bibliothèques publiques qui sont en général communales ou de province ou quelquefois des régions. Pour ce type de bibliothèque, la compétence législative est régionale et chaque région a sa législation. Une proposition de loi cadre de 1999 de l'Association des bibliothécaires italiens n'a jamais abouti. Par contre, aujourd'hui, l'Association du Forum du Livre a proposé une loi d'initiative populaire sur la promotion du livre et de la lecture, qui pose même les bibliothèques et leur rôle dans la filière du livre. À la une aujourd'hui, c'est aussi le catalogue du service bibliothécaire national, SBN. On a des problèmes au niveau du service central qui le gère, des problèmes de budget et des problèmes qui concernent le personnel, car les retraités ne sont pas substitués depuis des années. C'est comme ça, pas seulement pour l'Institut central du catalogue, mais aussi pour les bibliothèques en général. Beaucoup moins de fonds et l'âge moyen, comment dire, plutôt élevé. On est obligé à rester jeune. Je ne veux pas m'arrêter sur les cas limites comme celui de bibliothèques réunies de Catania, en Sicile, qui ont lancé le crowdfunding sur leur page web, comme vous voyez, où seule la directrice est restée en service par la crise financière de la commune. Mais il faut dire que le nombre de bibliothèques qui s'organisent pour ramasser des ressources financières externes est en constante augmentation. Voici quelques exemples. Fais don d'un livre à la bibliothèque de ta ville. Celle-ci est une initiative qui s'est déroulée l'année dernière par les librairies Giunti dans plusieurs villes d'Italie. Chaque librairie était jumelée avec une bibliothèque et les clients étaient invités acheter un livre pour une certaine bibliothèque. À peu près 100 000 livres ont été achetés comme ça pour les bibliothèques. Vous avez l'image de la foire du livre organisée par une petite bibliothèque, la bibliothèque de Borgo Ricco, un petit centre dans une zone rurale du Veneto où il n'y a point de librairie. D'un côté, la bibliothèque offre un service à son public. De l'autre côté, ils ramassent des fonds puisqu'ils sont récompensés en pourcentage sur le vendu. Ici, c'est plus ou moins le même, mais en lieu d'être invité à acheter à une foire du livre ou dans une librairie physique, les lecteurs sont invités à acheter chez une librairie de commerce électronique. Ils sont reconnus grâce au code numérique qui fait leur obtenir des gadgets et l'expédition gratuite. La bibliothèque, de son côté, obtient un crédit de 5% sur le vendu que pourra être utilisé pour les achats futurs. Le régime fiscal sur la donation aux bibliothèques ne nous aide pas. puisqu'ils ne sont pas prévus de bénéfices intéressants pour ceux qui donnent de l'argent à la culture en Italie aujourd'hui. Les associations des amis des bibliothèques, de la bibliothèque deviennent de plus en plus en aide valide aussi pour gérer la modalité de crowd-raising, qui est encore une nouveauté pour l'Italie. Massimo Coincali de l'école du fundraising de Rome, au colloque de Milan de cette année, a confirmé que aussi chez nous, au-delà des initiatives particulières isolées et souvent improvisées, il y a une attention croissante à étudier modalités et programmes spécifiques de fundraising. Le financement public ne peut plus être la seule route à parcourir pour les bibliothèques qui sont avant tout des institutions sociales de la communauté. Pour ce qui concerne la situation de ma ville, de Turin, à cause de la crise actuelle, mais aussi à cause de dettes de l'Olympiade, de la neige de 2006, qui ont se prévenu, on ne parle plus de bâtir la nouvelle bibliothèque centrale qui a été projetée par l'architecte Mario Bellini. Bien sûr, nous avons besoin d'une nouvelle bibliothèque centrale, alors on parle de récupérer un grand bâtiment expositif actuellement inutilisé. Aujourd'hui, pour épargner de l'argent, plusieurs bibliothèques s'orientent vers des logiciels open source pour la gestion. Nous en avons adopté un qui s'appelle Clavis et qui nous convient beaucoup. Pas de coût de licence, on paie seulement l'entretien évolutif des informaticiens. Et c'est un logiciel tout italien qui nous permet soit de coopérer au niveau du service bibliothécaire national, soit de développer des services My Library-like pour nos usagers. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes en bonne compagnie avec des autres bibliothèques, surtout dans le nord d'Italie, le sud-ouest de Milan, la province de Vérone qui en était la première, la vallée d'Aoste, mais aussi la bibliothèque Ambrosiana de Milan, celle du Codex Atlanticus, pas seulement une bibliothèque publique, parce que le logiciel c'est très bon. Et avec ce nouveau logiciel, face à la crise, on a aussi amélioré le système de prêt parmi les bibliothèques du réseau urbain et on peut acheter moins d'exemplaires du même titre. Mais nous ne sommes pas ici seulement pour pleurer. L'argent n'est pas tout dans la vie et aussi pour les bibliothèques. Nous avons des autres richesses à exploiter qui sont non professionnelles. La capacité de faire réseau, par exemple avec le troisième secteur, et les compétences de nos bénévoles. Déplaçons-nous de l'autre côté du comptoir et regardons la crise de la côté de nos lecteurs. Il faut dire que les bibliothèques publiques sont de plus en plus un service social, nous l'avons déjà vu avec les autres interventions, pas seulement un service culturel. Notamment dans une époque de crise. Prenons nouvellement l'exemple de Turin. C'est où je travaille, mais il faut dire que plusieurs bibliothèques en Italie aujourd'hui font ce que nous faisons ou ce que nous sommes été les premiers à faire. Dans les bibliothèques de notre ville, on accueille des stagiaires de toutes sortes. Nous avons des stages de formation pour les étudiants, soit de l'université, soit du lycée, et des stages de socialisation pour le demandeur d'asile politique. À mon avis, c'est une partie significative de notre mission de service public. Nous participons aussi à un programme de la ville qui concerne les bénévoles de la troisième âge. Ils sont réellement des bénévoles, ce que vous voyez dans les affiches que nous avons eues dans la ville. Il y a une centaine de bénévoles seniors engagés dans notre réseau bibliothécaire. Aussi, grâce à tous ces seniors, nous pouvons organiser une bonne partie d'activités culturelles et d'autres initiatives pour notre public sans agent. Environ 100 000 présences distribuées en plus de 5 000 rencontres pendant l'année. Les groupes de lecture sont aussi une occasion de rencontre et socialisation contre la solitude et l'isolement social de ceux qui vivent réellement depuis la crise. Nous avons des rencontres, des conversations en langue étrangère, rencontres tenues par nos seniors ou par des jeunes stagiaires universitaires dans les bibliothèques, et ils offrent opportunités soit de rencontres, soit d'amélioration des compétences pour le travail qui sont encore plus importants dans ces périodes. Bien sûr, en collaboration avec les seniors, avec des associations ou avec les instituts scolaires pour les adultes, en bibliothèque, on tient des cours de, nous disons, alphabétisation informatique, si j'ai compris, vous avez une autre expression numérique. Oui, bon. Et surtout pour ceux de la troisième âge, mais aussi pour les chômeurs. On offre aussi un service de consultation d'avis en collaboration avec les autres professionnels. On peut réserver un rendez-vous gratuit avec un professionnel de la durée de 20 minutes dans la bibliothèque. Bon. Pour les étrangers, il y a des cours d'italien, langue 2, et aussi des cours de citoyenneté. En particulier, un cours annuel est beaucoup fréquenté pour les femmes du Maghreb avec un service de crèche pour les enfants pendant les rencontres. Il y a aussi des bénévoles seniors à disposition pour rendez-vous individuels pour l'étranger qui ont besoin d'aide dans l'usage pratique de la langue italienne, même s'il le connaît un peu. Sur le modèle de l'école Penny Wharton de Rome, mais aussi des Italiens utilisent le service qui s'appelle Donnons-nous la main. Ouais. Chers collègues, aujourd'hui comme autrefois, c'est-à-dire que ce monsieur était Alberto Geiser, un banquier de Turin qui, à la fin du XIXe siècle, étant devenu conseiller communal, avait fait un peu de benchmarking sur les bibliothèques. Et à propos de la ville de Manchester et de la crise de la moitié du XIXe siècle, il remarquait comme ça. Dans les bibliothèques, le public augmente en termes de crise économique et de manque de travail. Les bibliothèques de Manchester contribuent à mitiger avec une diversion salutaire les souffrances d'un part de la classe ouvrière et peut-être aident les meilleurs à trouver de nouvelles voies pour les surmonter. Et alors, chers collègues, il ne reste que continuer ainsi. Et merci de votre patience pour mon français.
Merci beaucoup. Et donc, on va passer à la dernière intervention de Yann Anstis.
Excuse me, I am just working out how to get this to play. It is different than in England. I don't know what button to press. Help! Help! Now!
Immediately!
Thank you. Can you get it on?
Alors.
Ah, excellent. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. I am sorry. I am from England. I do not speak French. It is a national failing. So, public libraries in England, massive change, some for the better, some for the good. Here we have on the left a nice new public library, and here on the right we have a small library that was closed, and squatters took it over in protest. There was an Occupy movement to save a library. So we have extremes. There were changes before the current crisis. The crisis in England is about 2010, 2011 it started. Things were not good before, okay? There were less people using libraries, there were less people taking out books, and there were also libraries closing. So in 10 years, 2000, 2010, 300 libraries closed. So a lot of libraries. But then came the bad times. In 2010, 11, 146 closed. In 2011, 200 closed. 2013, we're looking at nearly 300 under threat. That's out of a surviving 4,200. That's in England, Scotland, Wales, Northern Ireland have more. Why is this? It's easy. We have no money. Councils run libraries. They have been told by central government to cut 28% of their budget. Libraries are not seen as essential. So library services are being cut more than, say, elderly people's homes or highways or whatever. And it gets worse because in 2015 we're expecting another 10% cut. All in all, these are the biggest cuts to peacetime council budgets in modern history. We have not seen worse than this apart from in wartime. Now, public libraries in Britain are well-loved. They're really embedded in the community. People care for public libraries. If you close a public library in Britain, stand by for a fight. And this is what's happened. There has been spontaneous demonstrations of all ages and all political views of people not wanting to see their libraries closed. It has been amazing. We're not sure what effect it has on elections, but it scares the heck out of politicians. Councillors are not happy to close libraries because there are massive protests if they do. Some of the protests are quite exciting. We have people lying down in roads to protest against library closures. We have other people taking out all of the books in a particular library in protest. That one there, the bottom left, that was in Milton Keynes. Every book was taken out in protest, and that protest made it in the American news. I know it made it in the French news slightly, and made it worldwide news. And as I say, we have the Occupy movement taking over libraries as well. It is an exciting time to be a librarian in Britain. There are national protests as well, and there are national campaign groups. But actually, I suspect the fights are being won locally, not nationally. Most of these groups have their own problems. Voices for the Library is about six people on the computer. Library Campaign, about six people, not on the computer. Unison, a big trade union, but they're fighting everywhere. They can't just fight for libraries. CILIP, the library professional body, there's a lot of senior managers in CILIP who are cutting libraries, and so they cannot be vocal. So there's a lot of stuff. There's a National Libraries Day now, which came out of protest, which is a national celebration of libraries. We did not have that before. It started off as a protest. Now it's becoming more embedded. So something good has come out of a crisis, I guess. As well as closing libraries, councils are being quite inventive in how to keep libraries open while at the same time having less budget. So we're seeing less opening hours, less books, less staff, which means less users, which means less customers, which means we're more likely to close in the next few years. But councillors can say they are not closing libraries, they are just closing the hours, they're just cutting hours. Another big thing, volunteers. We have lots of volunteers. Now, this started off as being additional to normal staff, normal paid staff. Not so much anymore. What's happening is when a library is being closed, the council says to people, we're not closing the library. It's up to you to look after the library and to volunteer to run it. If you do not run the library, it is your fault. It is not for councils. So we can see here, if you do not volunteer, it will perhaps suggest that they don't want libraries as much as we thought. It is your fault if your library closes. So how many volunteer run libraries? We had 170 at the end of 2012, quite a few, that's 5%. We are expecting 12% soon. The numbers are shooting up as more libraries are being closed, more volunteers are taking them over. This does not necessarily please librarians, okay? Because our jobs are being lost and unpaid people, senior citizens, are taking them over. The more volunteer-run libraries there are, the more likely it is councils say, ooh, that's a good idea. Let's close a few more. Let's get volunteers to take them over. There have been legal fights. We do have legal protection in England against library cuts, but the legal protection is pathetic. There's almost no protection in reality. You have to have a comprehensive and efficient service. No one knows what that means. So there has been no court victories using for legislation. Campaigners have won fights using other laws, but what happens then is the council just changes things slightly and then closes for libraries anyway. Now, all that sounds quite depressing because I am not Mr. Vasey, Minister for Libraries. Mr. Vasey is an optimist. He believes that libraries are thriving, that libraries are doing great, and that any cuts are an illusion brought on by drinking too much coffee. Let's have a look at reasons why he might think this is so. Well, we have had some big new spending on libraries, lots of big new spending, loads of money. Liverpool, £50 million on a new library. Birmingham, £188 million. Manchester, £170 million. And they're not alone. Over 100 other libraries have had money spent on them. This is because they all started before the crisis. They all started in 2009-2010. They are opening now. And these big new libraries are opening, but the councils do not have the money to pay for them. So they're closing for small libraries to pay for the big ones. Another fascinating way to save money is to co-locate, is to have other services in your library. We have people selling flowers in some of our libraries, house services, museums, council services, all sorts of things. This is sometimes good, because you get more people into the library and they take out books and use the library. It is sometimes bad because you have to search to find the library in the building which is full of other services. And the size of the library is getting smaller as the other services are increasing. Self-service. This started off as being additional to staff, additional to people, so that the library service would free up people to do other things. Not anymore. Self-service is increasingly being used to replace staff because a machine is cheaper than a librarian. We are also looking at getting other people to run our library services. So we have a lot of non-profit trusts taking over. There are tax advantages. You pay less tax if it's not for council running a service. And we also, interestingly, have a private company, Lang, who have taken over four authorities' library services just recently this year. which means they have economies of scale. It's not just non-profit companies that are doing that. We've had three councils, Hammersmith and Fulham, Kensington and Chelsea, and Westminster, all combining their library services, cutting staff, and saving £1 million that way. So the libraries haven't closed, but the people in the back office have gone. Goodbye. And that's also happening in other services as well. What's happening nationally is the Society of Chief Librarians, along with others, are partnering with different organisations to try and boost the importance of libraries. So we have a books and prescription scheme just launching this week where we link in with doctors. If you go to a doctor and say you are not feeling very well, he will give you a book. He will say, here, go to the library, take out this book, it will help you how to deal with stress, and so on. It's a great idea. Summer Reading Challenge, so it's encouraging children to use the library. Information, of course. And excitingly, also digital services. The government is wanting all services to be online. So if you're paying your council tax, if you're getting unemployment benefit, you need to do it online. A problem. One in six people in Britain does not have the internet, and they are likely to be unemployed. So where do they go? Well, they have to go to the library to use them. And so that's good for libraries. That's really good for libraries because it means that we're an important institution as far as the government is concerned. It does not mean the government is going to give us any money. No. It means that we are less likely to be cut more. There's been no evidence of more money coming to library services because of these initiatives. And I've not even started on e-books yet. E-books are having a massive impact on libraries in Britain. We are seeing a big decline in usage in libraries because people are using e-books. E-books are cheaper, free sometimes, and we are losing customers because of that. Some library services have got e-books, Overdrive, but that is a problem for us because the good books are not on Overdrive often. So what are we seeing? Well, we're seeing a big amount of stress on libraries all at the same time, a small amount of time. We're being told to cut budgets and we're not being told how to do it. So different councils, different authorities are doing different ways. Some of those ways are successful and libraries are doing okay, thank you. Some of those ways are not successful, and some places, half the libraries have closed in the last year or so. We're seeing forced evolution. We are seeing for survival of the fittest in libraries in the UK. We used to think that libraries were protected, that we were safe, we had safe jobs, no one wanted to close libraries. Turns out when it push comes to shove, people close libraries. So, we have to fight. There's a lot of good things going on, lots of exciting times. If you want to read more, read my website, publiclibrariesnews.com. Thank you very much for listening to me. Thank you.
Merci beaucoup et merci à tous les intervenants qui ont tous tenu leurs 15 minutes. Bravo, bravo, bravo. Je me tourne vers l'ABF pour savoir, est-ce qu'on peut prendre quand même 2-3 questions ou est-ce que c'est 2 questions alors ? Voilà. Y aurait-il 2 questions dans la salle ? Une question ? Là-bas, super.
Voilà, donc bonjour, moi je suis une bibliothécaire qui travaille dans un gros service de l'université et c'est plutôt une observation par rapport à la crise et aux bibliothèques. J'ai travaillé aussi dans les bibliothèques de lecture publique Et comme j'ai quand même quelques années professionnelles derrière moi, je me souviens que la professionnalisation des personnels a toujours été considérée comme une victoire, hein, par rapport au métier, bien sûr, mais par rapport surtout à l'évolution des bibliothèques et à la médiation aussi du bibliothécaire entre des collections et un public. Et je vous écoutais tous, les bibliothèques dans la crise, nous aussi nous y sommes dans la crise, et je dois dire, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce retour finalement accru au bénévolat, c'est vraiment quelque chose qui, moi, professionnel plutôt en fin de carrière, m'inquiète terriblement.
Je suis désolée, je fais une petite minute de 30 traductions.
On va répondre.
Oui. Je pensais à une intervention comme ça. Je ne suis pas heureux de considérer, je ne considère pas les bénévoles comme la solution des problèmes des bibliothèques de l'étude publique. Je considère que nous sommes en attente, j'espère, pas de Godot, mais de nous reprendre de la crise. Et on a besoin aujourd'hui de résister. Et les bénévoles sont en aide pour nous pour résister, parce que mon travail, c'est pour offrir dans le futur nouvellement des opportunités d'avoir des jeunes collègues dans les bibliothèques. Mais aujourd'hui, la situation, c'est comme ça en Italie. Et c'est plus important de ne pas fermer des bibliothèques, aussi avec les bénévoles, que pour l'Italie. Nous n'avons pas la tradition de l'Angleterre. Nous avons eu les premières bibliothèques de lecture publique réellement seulement à la fin du XXe siècle. Et le problème, c'est que la plan, c'est jeune. Et nous devons maintenir l'expérience pour la population. La seconde considération pour moi, c'est nous sommes face à personnes qui ont des problèmes. On va enseigner à pêcher, mais on va aussi à donner le pêche avant que la personne va crêper. Oui, bon. C'est la même situation pour l'information, pour les opportunités de survivre. On a écouté sur le sans fixe de mort, sans dimanche fixe, vous. Ah, oui. Sans domicile, nous disons senza fissa dimora, hein, c'est la même chose. Je pense à l'heure aussi. Je pense aux chômeurs, je pense au vide de socialisation que nous avons dans une ville, même comme Turin. Bon, les bénévoles sont importants pour ces raisons, pour cette raison. Et je sais que les bénévoles sont une opportunité limitée dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, en Italie, nous avons beaucoup de gens qui sont déjà en retraite et qui sont encore valides. Mais je sais que les années prochaines, nous n'aurons plus de retraite. J'espère d'être le dernier. Mais j'ai déjà eu une prolongation de mon travail. Bon.
It is up to us. If we do not prove that our jobs are professional, that are deserving of our pay, then people will replace us with volunteers. It is up to us in everything that we do to prove that an unpaid person cannot do it as well.
Est-ce qu'il y a une autre question? La deuxième? Ah, je vois une question là-bas.
Oui, c'est une question sur la gratuité ou non d'accès. Je voulais avoir une précision, notamment sur la Grèce et le Portugal. Si c'était des bibliothèques qui, avant et après la crise, étaient gratuites d'accès ou non, et si justement ça avait entraîné des... Parce qu'avec tout ce qui a été dit sur les échanges, etc., j'avais besoin de cette précision. Merci.
Well, in Portugal, before the crisis, the services were free of charge, and it still are. The users don't have to pay for the checkout books or any kind of documents. The changes that I refer on the presentations are between libraries, and they are also free of charge. All libraries are in crisis, so if they change the documents that they have from offers of some kind of donations, it is good for everyone. But all services are free for now.
Et je veux dire aussi qu'avant la crise économique, les bibliothèques sont très riches parce que Grèce a une très grande histoire avec les lecteurs et des livres, mais malheureusement aujourd'hui, on nous tue constamment, mais non, on ne va pas mourir. On essaie de laisser les bibliothèques ouvertes.
Ok, ben, merci beaucoup pour les questions, merci pour les réponses, merci pour les interventions. Ah, et il y a une petite annonce.
Bonjour à tous, avant que vous quittiez la salle et que vous regagniez les espaces du salon, je voulais vous inviter à participer à la chasse au graton. Elle est ouverte et elle consiste à rechercher sur le salon des petits sachets qui sont cachés, des petits sachets de graton. Ceux qui ne savent pas ce que c'est seront ravis de le découvrir, je pense. Et à partir de 11h, donc dès maintenant, sur le salon, et rendez-vous à 16h sur le stand de l'ABF. Celui qui en aura trouvé le plus sera le gagnant, c'est le principe de la chasse aux œufs, et gagnera, une bonne bouteille, une grande bouteille de bon vin. Voilà. Alors, la chasse est ouverte.
This is a game. This is a game. And they hide some little package, everywhere on the stand, on the booth. Yeah. And if you found some, and if you have a lot of them, and the more you have, you can have a gift.
Oh, fantastic.
Are you okay for taking a picture of the...